BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
Philippe Perra, le directeur général délégué d'Atoll, est donc avec nous ce soir sur le plateau du Grand Journal. Le Grand Journal qui s'intéresse au secteur de l'optique. Je vous disais, pour débuter cette émission tout à l'heure dans le chapeau d'introduction, c'est un secteur, au final, c'est un secteur pardon, dont on ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire, sauf quand il y a une déclaration fracassante d'un acteur de la grande distribution, par exemple, ou quelque chose dans ce style-là. Autrement, c'est un secteur qui reste même assez discret, non ?
Bah écoutez, oui, et pourtant, 6 à 7 Français sur 10 ont besoin de nos produits pour mieux voir la vie. Mais effectivement, on est plutôt des techniciens, donc certainement un petit peu plus discrets que de grands communicants.
Alors, Atoll, pour faire simple, c'est donc la quatrième enseigne du marché. Vous avez vu le jour en 1970, enfin dans les années 70, un chiffre d'affaires de 390 millions d'euros, 790 magasins, 542 opticiens. Et une particularité, c'est que Atoll, c'est une fédération, c'est ça, on peut dire ça comme
une coopérative. Une coopérative, hein, d'ailleurs, notre président, Eric Plat, est aussi lui-même le président de la Fédération du commerce associé, la Fédération du commerce coopératif associé, qui représente quand même plus d'un tiers de tous les emplois de la distribution en France.
Vous souhaitiez, en début d'année, recruter une centaine d'opticiens, une centaine de nouveaux membres, donc. Est-ce que vous avez réussi votre pari, ou en êtes-vous aujourd'hui, en tout cas, dans cette...
Si vous voulez, aujourd'hui, on va avoir recruté environ 25 nouveaux magasins. C'est le plan, si vous voulez, triennal que notre président a souhaité promouvoir, de façon à ce que, à moins de 10 minutes de chacun de nos concitoyennes ou concitoyens, il y ait un Atoll où on puisse non pas se reposer, mais reposer sa vue.
Avec des magasins, des zones en tout cas prioritaires, c'était le cas de la région parisienne et plus globalement d'ailleurs de l'Île-de-France, et également le cas du Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Auvergne, Bretagne. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des disparités importantes dans...
Oui.
Alors, pas spécialement pour votre marque, hein, mais globalement pour l'optique dans les régions ?
Alors, pas globalement pour l'optique, mais pour notre marque en particulier, parce qu'effectivement, historiquement, on a des opticiens qui ont été plus ou moins dynamiques dans certaines régions et parfois moins dans d'autres. Comme nous sommes, une fois encore, une coopérative, il faut savoir qu'à chaque fois, c'est l'associé qui met toutes ses économies en jeu, et compte tenu de la cherté des loyers ou des pas de porte sur la région parisienne notamment, c'est une des explications qui illustre le fait qu'on soit pour l'instant encore peu présent, mais on a commencé à encercler Paris dans un certain nombre de centres commerciaux assez conséquents, et puis au fur et à mesure on ouvre des magasins dans Paris.
Ouais, la brèche, le cheval de Troie, ça reste les centres commerciaux, c'est-à-dire que Paris, ça, vous le disiez, hein, les loyers sont prohibitifs, ça ouais. Reste encore compliqué.
Ah oui, tout à fait. Hein. Mais bon, j'espère que là encore, les bailleurs institutionnels vont se rendre compte que ce qu'ils faisaient payer prix d'or jusqu'à présent pour avoir parfois uniquement une visibilité doit être ramené à l'économie réelle. Et aujourd'hui, un certain nombre de bailleurs sont quand même un petit peu...
Les choses sont en train de changer ?
Difficilement, mais je pense qu'il faut que eux aussi se rendent compte que la chute est réelle en termes de fréquentation dans leur centre, malgré les efforts qu'ils déploient, et qu'à ce titre-là, il convient de ne pas étrangler les locataires.
Qu'est-ce que ça change, mine de rien, d'être une coopérative ?
Alors, le fait d'être une coopérative, c'est un système, si vous voulez, bien sûr capitaliste, mais capitaliste patient, à l'opposé du capitalisme un peu impatient financier qu'on a pu décrier ces dernières années. Ça nous permet de nous laisser un petit peu le temps de construire notre courbe d'expérience, et notamment, c'est ce qu'on a pu faire depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant avec la relocalisation d'un certain nombre de
fabricants. On va en parler, parce qu'effectivement, vous avez beaucoup parlé de vous au moment de cette relocalisation dans le Jura, notamment.
Exactement.
Je disais 791 magasins, l'objectif à moyen terme, c'est quoi ? C'est d'arriver au 800,
un petit millier,
ouais.
Avec un petit millier, d'après nos géographes, ça permet de mettre à disposition, comme je le disais tout à l'heure, un opticien Atoll à proximité de tous nos concitoyens, que ce soit en France ou dans les DOM-TOM.
J'allais vous demander, alors, France DOM-TOM, au-delà de la France, qu'elle soit métropolitaine ou outre-mer, passer les frontières, non, ça reste...
Ça fait partie des projets dont on parlait encore tout à l'heure avec mon président.
Ouais, bah écoutez, continuez à en parler alors. C'est quoi ? C'est vraiment la proche banlieue de la France, le Benelux par exemple, la Suisse, la Belgique ?
Écoutez, on a deux types de préoccupations. Bien sûr, l'Europe. Parce que là aussi, les interlocuteurs que nous avons, notamment nos fournisseurs, sont soit européens, soit très généralement des acteurs mondiaux. Et puis de l'autre côté, il y a toute la francophonie. Donc nos cousins canadiens que je salue ici et certainement d'autres pays où on pourrait faire commerce ne serait-ce qu'en ayant ce facteur commun qu'est la langue.
Est-ce qu'il y a une spécificité de la lunette ou du monde de l'optique en France puisqu'on parle un peu d'internationalisation? Est-ce qu'on consomme les lunettes de la même manière au Canada par exemple, en Amérique du Nord ou en Chine?
Pas du tout. Alors effectivement, la France, avec son système social notamment, est une exception et de fait, ça a permis aussi certainement d'accompagner l'essor d'une grande multinationale qui est le groupe Essilor, mm-hmm. qui est là aussi le premier
partenaire.
Notre partenaire principal. Et si vous voulez, la consommation en France est une consommation beaucoup plus qualitative que vous parliez des États-Unis, où il n'est pas rare de voir un Américain avec 2-3 paires de lunettes autour du cou, puisque en fonction de s'il veut voir de près, s'il veut voir à mi-distance ou s'il veut voir de loin, il va chausser l'équipement qui va le mieux. Pour ce qui nous concerne, on a la chance d'avoir eu cette invention réalisée en France en 1959, qui est le Varilux, hein, une marque protégée par Essilor, qui est ce qu'on appelle le progressif et qui permet effectivement de voir de près comme de loin avec une seule paire de lunettes.
Et pourtant, cette protection sociale, à un moment, en tout cas, vous la critiquiez en disant il faut et c'est impératif que les Français, quand ils vont chez un opticien, déboursent quelque chose. La carte verte ou la mutuelle ne donne pas la réelle valeur de ce qu'est une paire de lunettes.
Tout à fait. Si vous voulez, nous sommes coopératifs et surtout responsables. Et à ce titre-là, il nous semble important que ce qu'on appelle le reste à charge demeure de façon à ce que, contrairement à ce qui se passe effectivement, comme vous le citiez, dans la pharmacie, on vient avec sa carte vitale, on ressort avec un ou deux sacs pleins de médicaments, on ne sait pas combien ça nous a coûté, combien ça a coûté à la communauté. En France,
mais
certains organismes...
Qu'est-ce que ça change pour l'opticien que vous êtes?
C'est simplement que, au-delà d'être opticien, nous sommes une société qui est dans un environnement économique et que nous souhaitons qu'il y ait une véritable prise de conscience de nos concitoyens, des acteurs aussi de la filière et notamment des organismes complémentaires d'assurance maladie qui, eux, ont une vision parfois un petit peu restrictive des choses en essayant de faire pression sur les prix, ce qui, malheureusement, emmène toujours à aller chercher des fournitures au bout du monde.
Alors justement, les prix, parlons-en, parce que c'est également, mine de rien, là où le bas blesse. En tout cas, quand on parle d'optique, on parle souvent de prix, et notamment en France, de prix chers. Et vous le dites, hein, d'ailleurs, la France est parfois 30-40% en termes de prix, au-delà de ce que l'on peut trouver ailleurs.
Attention, la consommation des Français va être de 30-40% supérieure à celle de nos amis allemands ou espagnols.
Non,
mais par exemple... Pas les prix. Si vous voulez, quand vous allez en Allemagne ou en Espagne, le système social fait que lorsque, éventuellement, vous n'êtes pas cadre dirigeant, vous n'avez pas de complémentaire santé. Mm-hmm. En France, nous payons, vous payez, soit vous-même, soit votre employeur, une complémentaire santé qui revient 100-150 euros par mois. Mm-hmm. Hein, ça veut dire quand même que c'est environ entre 1500 et 2000 euros par an qui sont payés pour nos frais de santé. C'est pas le cas en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, etc. Donc on comprend aussi mieux que, de ce fait, lorsqu'on peut avoir plutôt un équipement progressif, comme c'est mon cas par exemple, que juste un équipement pour voir de près, eh bien ma foi, en France, on a plutôt tendance à se rabattre sur cet équipement
qualitatif.
C'est ça qualitatif.
Qui fait que les lunettes sont plus chères en France qu'à l'étranger.
Oui, on a une consommation de verres progressifs qui est bien plus importante, par exemple, que ce qu'on peut voir. J'en parlais avec des confrères italiens ou espagnols ou allemands il y a encore peu de temps. C'est effectivement une des grosses différences.
La main-d'œuvre, ne parlons pas du verre, mais la main-d'œuvre aujourd'hui, vous arrivez, je sais que vous avez communiqué là-dessus il y a pas très longtemps, vous arrivez à être quasiment ou même complètement compétitif avec des pays comme la Chine, par exemple.
Alors effectivement, ça c'était un pari que j'avais lancé à notre directeur des opérations Cédric Veil quand on a monté notre nouvelle usine en 2007 à Beaune. C'était effectivement de devenir plus compétitif en termes de réalisation taillage de deux verres pour les monter sur une paire de lunettes que ce qui se faisait à l'époque. l'époque en Chine. Alors ce qu'il faut voir, c'est que nos usines de production sont diamétralement différentes. Hein. En Chine, c'est exclusivement ou quasi exclusivement de la main d'œuvre. Chez nous, on a beaucoup robotisé. Et effectivement, on a aussi utilisé la flexibilité qu'on a pu, grâce à des équipes très impliquées chez nous, de façon à pouvoir travailler en 3-8. Donc, robotique plus informatique plus, je dirais, climat social très participatif nous permet effectivement aujourd'hui d'avoir une production, juste le taillage et montage de verre dans une paire de lunettes, à un équivalent de 5 à 6 dollars. Et aujourd'hui, ça va être 6 ou 6,50 dollars en Asie.
Mais je reviens quand même sur ce prix, du coup, puisqu'on arrive, vous nous prouvez, on arrive à être compétitif sur le taillage et sur le montage de la monture. Est-ce qu'on peut imaginer pouvoir baisser les prix aujourd'hui de la lunette en France ?
Alors, on pourrait très certainement avoir une baisse des coûts, sans vouloir être trop taquin, parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, mais si le président de la République demain décide que la TVA, qui est une bonne spécialité française, se mettait au diapason de ce qui se passe en Italie ou en Espagne, d'un seul coup on aurait 10% de baisse du coût des montures chez nous. Donc si vous voulez, il faut se rendre compte aussi que on applique à la lunette, qui est finalement un accessoire de santé, le prix d'un produit de luxe.
Vous ne voulez pas le dire, ni accessoire de mode, ni produit de grande consommation, pourtant, c'est quoi, 6, 7 Français sur 10 qui ont des lunettes ?
Oui, tout à fait.
Alors pourquoi
je
ne
dis pas produit de grande consommation, parce que tout à l'heure, vous faisiez allusion à la cherté des produits. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on n'a peut-être pas été les meilleurs en ne sachant pas coupler correctement l'achat de nos produits avec leur durée d'utilisation. Donc en fait, un consommateur paye content, et j'espère heureux, un produit qui va lui durer 3, 4 ou 5 ans. Il vous arrive rarement de partir avec un pochon de billets de 500 pour acheter votre Twingo ou votre Fiat 500, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, c'est aussi ça qui fait écho dans l'esprit du consommateur. Hein, si vous voulez, le consommateur de base, François, Roger ou Élie, va se dire « Tiens, je vais acheter mes lunettes et puis j'ai une somme qui est assez conséquente. »
Mais en retraité, ça peut être aussi effectivement. Ça n'est pas du luxe, hormis quelques montures très particulières et éventuellement les lunettes de soleil également. Donc ça n'est pas du luxe.
Et sur les lunettes de soleil, surtout actuellement, ne sont pas du luxe parce qu'elles permettent aussi,
certaines leçons, on est d'accord,
de protéger notre capital vue.
Certaines restent quand même du luxe. Mm-hmm. On peut aider d'acheter une paire de lunettes de soleil.
Oui, il faut avoir un bon verre.
Un prix exorbitif, ça.
Tout à fait.
Voilà. Donc, ça n'est pas un produit de luxe, ça n'est pas un produit de grande consommation, c'est compliqué, vous.
Oui, on est effectivement un petit peu à la croisée de plusieurs chemins. On est auxiliaire de santé. Bien sûr, la beauté est quelque chose d'important puisque la lunette est parfois, pour un certain nombre de nos concitoyens, comme un accessoire de mode. Et effectivement, on est dans un circuit aussi où la financiarisation, on communique effectivement, et puis la financiarisation, la solvabilité du marché est assurée par des caisses qui viennent vous ponctionner tous les mois des cotisations pour vous les reverser au compte-gouttes.
Un mot également de la R&D dans les lunettes.
Oui.
Vous avez, là vous portez aujourd'hui des lunettes qui sont des lunettes fabriquées en France et qui sont connectées. Alors évidemment, je ne vais pas jouer les avocats, mais à quoi ça sert des lunettes connectées ? C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu parler de produits connectés pour la santé, bon, qui me donnent mon nombre de pas, qui me donnent mon nombre de calories, ça je vais le croire. Des lunettes connectées, j'avoue que j'ai du mal à comprendre.
Alors, je vais répondre en deux temps, hein, si vous le voulez bien. La première chose, c'est qu'effectivement, et vous verrez d'ici une vingtaine d'années, quand vous atteindrez les 40 ans, la presbytie fait que vous êtes obligé, pour voir de près, d'utiliser donc des lunettes qui font cet effet loupe, vous permettant effectivement de lire. Et très souvent, nos concitoyens qui ont cette quarantaine ne portent pas en permanence leurs lunettes. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les mettent pour lire, ils les enlèvent, etc. Et souvent, ils vont les mettre sous un journal, par exemple, s'ils ne regardent pas en permanence BFM télé, et ils vont les perdre ou ne pas savoir où ils les ont mis. Le système que nous avons inventé, permet tout simplement de faire en sorte que, où qu'elles soient, vos lunettes dans la maison, ou même si vous les avez oubliées au bureau, eh bien, avec notre application TEOU, relativement simple, on arrive à géolocaliser où est votre lunette et savoir effectivement que vous l'avez laissée dans la cuisine, dans la salle de bain.
Aujourd'hui, les lunettes connectées, c'est ça. Mais demain, ce sera quoi? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que vous pensez, enfin, j'imagine que oui, mais vraiment, je suis désolé, mais je comprends pas où est-ce qu'on peut aller avec une lunette connectée. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter avec des lunettes connectées?
Alors, je vais vous donner deux exemples. Vous parliez de lunettes solaires tout à l'heure. Aujourd'hui, lorsque vous êtes à la plage, par exemple, ce qui n'est pas notre cas, vous allez vous retrouver dans le plus simple appareil, juste avec un maillot de bain et souvent vos lunettes. Mm-hmm. Et bien avec des lunettes connectées, ça vous permettra de vous dire tout de suite, attention, ça fait tant de temps que vous êtes sous le soleil, vous avez emmagasiné tant, d'ultraviolet, il faut remettre de la crème. Un exemple beaucoup plus concret pour ce qui concerne, par exemple, la problématique de dépendance. Aujourd'hui, nos lunettes vont être capables d'intégrer de nouveaux composants électroniques permettant de savoir si votre grande tante Agathe qui est toute seule en province n'a pas eu un malaise, puisque l'accessoire qu'est la lunette et qui est porté, donc, comme je le disais, par 70% de nos concitoyens, mais par près de 95 voire 98% de nos seniors, mm-hmm. eh bien, on va pouvoir, grâce à un gyroscope, par exemple, savoir si la personne n'a pas eu un malaise. Et là, tout de suite, déclenchement d'un appel vers un centre, je dirais, de surveillance, qui va pouvoir tout de suite intervenir.
Ça augmente le prix de combien?
Alors aujourd'hui, si vous voulez, grâce à la RAD qu'on fait en France, grâce à notre système coopératif, et nous sommes en direct avec nos sous-traitants, je dirais jurassiens pour la lunette, et puis bretons pour tout ce qui concerne l'électronique, on va être, je dirais, aux alentours, pour le modèle que je porte, de 189 € la monture, plus, comment dirais-je, 40 € pour le boîtier électronique qui, comme vous pouvez le voir, et pas juste une petite pièce de rien du tout, et qui nous permettra demain, là aussi, d'autres applications que l'on présentera au CES de 2016.
Ah, de rendez-vous est pris donc.
Oui, mais même, je vous invite aussi, dès les 10 et 11 septembre prochains, à venir aux Assises du Fabriqué en France avec Yves Jégot et Arnaud Montebourg pour délivrer quelques scoops.
Vous étiez la première marque à faire des lunettes connectées. Aujourd'hui, vous êtes rattrapé par les autres d'ores et déjà, ou vous continuez d'avoir une longueur d'avance?
Il me semble qu'effectivement, c'est d'avoir toujours des idées, de pouvoir les mettre en application, d'avoir les sous-traitants qui ont aussi des capacités d'innovation qui nous permet effectivement d'avoir déjà mis au point cette lunette pour la lancer là dans quelques jours.
C'est avec cette lunette que vous comptez aller regarder ce qui se passe du côté du marché canadien, par exemple, notamment?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai rencontré des dirigeants de groupements canadiens et ils sont effectivement assez excités de se dire, tiens, on va pouvoir faire quelque chose avec des lunettes connectées.
Avec une production.
Le champ est d'ailleurs, si vous voulez, infini.
Avec une production qui restera en France?
Oui, pour l'instant, on est bien, je dirais, on le voit, nos concitoyens préfèrent des produits locaux à des produits low cost, c'est clair.
Merci beaucoup Philippe Perrard pour vos explications, donc le directeur général délégué d'Atoll. Merci encore. Vous restez avec nous, on marque une petite pause sur BFM Business. Dans un instant, on s'intéresse à la Chine avec la dévaluation du yuan qui fait plonger l'ensemble des places boursières mondiales. Et puis juste avant, coup d'œil également sur ce rapport de la DARES qui montre que près de 130 000 postes étaient non pourvus en 2013. On en parle donc dans la suite du Grand Journal.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le Grand Journal, David Doba.
138 900 postes ont été vacants au dernier trimestre 2013, dont 75 700 dans les entreprises de 1 à 9 salariés. C'est ce qui ressort d'un rapport de la DARES publié hier soir. Bonsoir François Asselin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la CGPME. Comment expliquer ce nombre important? C'est une double question. Ce nombre important, d'une part, de 138 900 postes vacants. Et puis, d'autre part, comment expliquer que plus de 50% de ces postes soient vacants dans des petites entreprises?
Écoutez, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise puisque depuis 10 ans, en termes de création d'emplois, les créations d'emplois en emploi net se font dans les petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous mettez autour de la table du Premier ministre ou du ministre de l'Emploi l'ensemble des présidents des grandes entreprises françaises et qui leur demandent combien allez-vous embaucher l'année prochaine de salariés, eh bien la réponse sera pas très bonne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui les grandes entreprises créent de l'emploi mais en dehors du territoire national. Et depuis 10 ans, en création d'emploi net, ce sont les petites et moyennes entreprises qui créent de l'emploi. Donc, lorsqu'on retrouve cette part d'emplois vacants, donc des emplois non pourvus, avec une grande partie dans les très petites entreprises, ce qu'on appelle les TPE, c'est-à-dire les entreprises de moins de 10 salariés, eh bien, ça reflète tout à fait la situation où aujourd'hui, eh bien, celles qui sont potentiellement créatrices d'emplois, ce sont les petites et moyennes entreprises, voire les très petites entreprises.
Alors, que faudrait-il pour que ces emplois ne soient plus vacants aujourd'hui ?
Alors tout d'abord, il faudrait mettre en adéquation les besoins des entreprises et le marché de l'emploi. Vous savez que nous sommes dans une situation où le marché de l'emploi est complètement sclérosé, c'est pas nouveau. Il y a eu quelques efforts timides du gouvernement à travers la loi Macron, à travers la loi Rebsamen, pour essayer de fluidifier un petit peu tout cela. Mais nous sommes très loin de ce qu'il faudrait faire, et tant que nous n'aurons pas courageusement regardé en face eh bien, les vrais freins à l'emploi, eh bien, nous aurons beaucoup de difficultés à sortir eh bien, de cette situation où vous avez des entreprises qui sont en potentiel d'embauche et vous avez des chômeurs qui n'arrivent pas à trouver d'emploi.
Aujourd'hui, les entreprises pourraient embaucher rapidement si vraiment la situation s'améliorait.
Nous estimons à la CGPME, vous avez en France 1 640 000 entreprises qui ont au moins un salarié, de 1 à 250 salariés, vous avez 1 640 000 entreprises. Sur ces 1 640 000 entreprises, nous avons des indicateurs à la CGPME, nous les interrogeons régulièrement, ces chefs d'entreprise, et potentiellement, nous aurions 20% de ces entreprises qui seraient en capacité d'embaucher rapidement dans les 6 prochains mois. C'est donc à peu près 300 000 emplois qui pourraient être pourvu à moyen terme, voire à court terme, dans ce quartier d'entreprise. Donc c'est assez considérable. Lorsqu'on analyse dans le détail quels sont les freins à l'emploi, on arrive toujours aux mêmes réponses, à savoir que nous avons un code du travail qui est extrêmement complexe, qui est anxiogène. Nous avons aujourd'hui eh bien, une situation qui fait que socialement, parfois pour certains Français, il est moins intéressant de retourner au travail que de rester dans une situation où on est assisté par le pays, à savoir que lorsque vous avez vos revenus qui restent stables pendant plus d'un an parce que vous êtes au chômage, eh bien, vous n'êtes pas enclin de retourner travailler pour avoir une rémunération inférieure à ce que vous avez lorsque vous n'avez pas d'emploi. Donc, c'est toute cette politique qu'il faudrait revoir, effectivement, pour rapidement eh bien franchir le pas de ces entreprises qui potentiellement sont sont en prise d'emploi.
François Asselin, puisque vous évoquiez le code du travail il y a un instant, les syndicats se sont félicités de la censure jeudi dernier par le Conseil constitutionnel du plafonnement des prud'hommes des indemnités en cas de licenciement injustifié. La CFE-CGC, la CFTC et le MEDEF en appellent pour leur part au gouvernement. On n'a pas entendu la CGPME à ce sujet.
Si, la CGPME s'est positionnée déjà depuis belle lurette, puisque la CGPME et moi-même, je suis intervenu sur des ondes, alors effectivement pas sur les vôtres, mais tout simplement pour dire que c'était regrettable, nous avons des situations, lorsque nous demandions le plafonnement des indemnités prud'homales, c'est que tout simplement nous avions des situations absurdes, qui sont extrêmement anxiogènes, et comme vous le savez, lorsque pour un entrepreneur, lorsque pour un patron de petite entreprise, eh bien, il est compliqué de réduire la voilure lorsque vous avez moins de travail, eh bien, il sera tout aussi compliqué d'embaucher. Et aujourd'hui, nous arrivions dans des situations où parfois, ce qui était demandé lors d'un prud'homme dépassait complètement les capacités financières de remboursement d'une petite entreprise. Vous aviez des entreprises qui faisaient 5 000 euros de résultats annuels, des commerçants, des petits artisans, et qui se sont retrouvés devant des sanctions prud'homales de plus de 60 000 euros. Donc, ils n'avaient plus qu'à mettre la clé sous la porte. Et malheureusement, eh bien, pour arrêter le conflit avec un salarié, on mettait en péril le travail de 3, 4, 5, 6 autres salariés dans l'entreprise. Donc, ça nous paraissait tout à fait justifié de plafonner ces indemnités, tout simplement, pour circonscrire le risque qu'il peut y avoir à licencier quelqu'un. C'est pas plus compliqué que ça.
Est-ce que vous pourriez dire tout de même que le gouvernement fait des efforts ou tend la main régulièrement aux entreprises? Je prends l'exemple d'Emmanuel Macron qui a présenté en juillet dernier au Conseil des ministres une ordonnance pour simplifier les démarches, notamment pour répondre aux appels d'offres.
Oui, alors bon, si vous voulez, ces démarches pour répondre aux appels d'offres pour les PME, bon, c'était déjà bien engagé, ça fait déjà bien longtemps que le travail a été fait. Effectivement, là, il y a un petit coup de pouce. Le premier des coups de pouce, c'est avant tout l'allotissement, c'est-à-dire que pour nombre de marchés, éviter de globaliser les achats de l'État pour que ces marchés ne soient réservés qu'aux grandes entreprises en capacité de répondre à de gros appels d'offres, d'où cette volonté de promouvoir l'allotissement. Donc ça va vraiment dans le bon sens des PME et des TPE. Néanmoins, si vous voulez, c'est assez timide par rapport à ce qu'il faudrait faire. Le vrai sujet, si vous voulez, pour aujourd'hui les entreprises françaises, c'est que celles qui sont tournées vers l'export, ce qu'on appelle la France de l'extérieur, se portent plutôt bien. Et les entreprises de l'intérieur, les entreprises franco-françaises, qui ont leur marché sur le territoire national, ont beaucoup plus de mal à décoller. Et pourquoi ? Parce que l'environnement économique de ces entreprises est extrêmement complexe, est extrêmement lourd. Lorsque vous avez un déséquilibre important de la sphère publique par rapport à la sphère privée, eh bien, il n'y a plus d'espace économique pour le secteur marchand. Et c'est ça le vrai problème. Nous avons passé le cap en 2015, du pays européen qui a le pourcentage de dépenses publiques par rapport à son PIB le plus important. Nous sommes passés devant le Danemark, où nous dépassons les 57% de dépenses publiques par rapport à notre PIB. Et c'est vraiment là la question sur laquelle il faut s'attaquer. Malheureusement, le résultat ne pourra se faire attendre que sur plusieurs années. Donc, il faudrait avoir des actes courageux qui ne dépendent pas de la prochaine élection.
François Asselin, ce sera ma dernière question. Sur un an, en juin, donc entre juin 2014 et juin 2015, le nombre de défaillances d'entreprises est resté quasiment stable. C'est ce qu'affirme la Banque de France, qu'affirmait la Banque de France plus précisément mardi dernier. Que signifie ce chiffre ? Est-ce que ça signifie que la situation n'empire pas, mais qu'elle ne s'améliore pas pour autant ?
Alors cela signifie quand même que nous arrivons toujours à un petit peu plus de 63 000 défaillances d'entreprises à fin juin 2015, 63 154 exactement, je crois, de mémoire de la Banque de France, ces données sont sources de la Banque de France, et ça baisse de 0,1% par rapport à la même période fin juin 2014. C'est un chiffre historiquement relativement élevé, c'est-à-dire que si ça se stabilise, heureusement, c'est une bonne nouvelle, mais nous sommes là encore très loin du compte. Vous avez des secteurs qui s'en tirent pas trop mal, l'industrie, et pourquoi ? Parce que beaucoup d'entreprises industrielles sont tournées vers l'export. Vous avez d'autres secteurs qui souffrent, et à fin juin, vous aviez entre autres l'hôtellerie-restauration qui était encore en baisse par rapport à l'année dernière, à la même époque, et vous aviez toujours le secteur de la construction qui souffre toujours énormément. Nous espérons que dans les prochains mois, tout cela reprendra le bon sens, enfin en tout cas le chemin du redressement, tout en sachant que nous sommes dans une période extrêmement favorable à l'économie française, qui n'est pas notre ressort, vous le savez bien, c'est la parité euro-dollar. Attention avec ce qui arrive en Chine en ce moment.
Justement, on en parle dans un instant.
Voilà, et puis nous avons toujours un prix de l'énergie qui est relativement bas, qui est relativement favorable aussi au développement économique, et puis des taux historiquement bas. Donc si jamais ces trois conditions restent favorables pour la France, eh bien nous pouvons espérer effectivement une rentrée, une fin d'année plutôt positive pour l'ensemble des secteurs. Néanmoins, sans structure, sans réforme structurelle fondamentale pour notre pays, nous aurons toujours du mal à redécoller alors que d'autres pays européens avec la même monnaie font beaucoup mieux.
Le message est passé. Merci beaucoup François Asselin d'avoir été l'invité du Grand Journal ce soir sur BFM Business, le président donc de la CGPME. Vous restez avec nous, le temps d'une très très courte respiration et justement on parle de la Chine dans un instant avec notre nouvel invité, c'est à suivre.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le Grand Journal, David Dobat.
Et pour évoquer ce coup de semonce sur les marchés, deux jours de place boursière en repli, repli important après donc deux dévaluations du yuan voulues par le gouvernement chinois. Eh bien, nous sommes avec François Godemont. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des programmes Asie et Chine au Conseil européen des relations internationales. Alors, je disais, deux clôtures dans le rouge pour l'ensemble des places boursières européennes, deux dévaluations du yuan. Voilà le résultat. Qu'est-ce que l'on peut dire? Est-ce qu'il y a un effet? J'imagine que oui, mais en tout cas, c'est quand même impressionnant de voir la vitesse de réaction des investisseurs. Est-ce qu'il y a un effet psychologique là-dedans ?
Il y a évidemment un effet psychologique, comme on l'a vu au moment de la baisse de la bourse de Shanghai. C'est-à-dire que les sommes en jeu sont tellement importantes aujourd'hui, même si l'impact est plus chinois qu'international, ça impressionne. Et puis, il y a ce que cette d'évaluation, parce qu'il faut bien l'appeler par son nom, pourrait laisser présager, c'est-à-dire le retour à une politique tout à fait compétitive, mercantiliste, si vous voulez, la Chine pour booster ses exportations, qui bien sûr gênerait tous ses concurrents. On n'est peut-être pas tout à fait là, mais les marchés surréagissent.
Mais ces annonces ne sont évidemment pas anodines. En tout cas, le calendrier n'est pas anodin. On a longtemps parlé de cette croissance de 7% qui n'en est pas une, de ce mini-crack boursier du côté de la bourse de Shanghai. L'annonce intervient à un moment qui déjà était un moment un peu anxiogène.
Il faut savoir qu'en fait, le renminbi était à un niveau assez haut puisqu'il a suivi le dollar dans sa hausse. Et l'euro, par exemple, était à un niveau assez bas par rapport au renminbi, ce qui n'arrive pas souvent. Ces derniers mois, on sentait que les autorités ramaient un peu pour maintenir ce niveau. Mm-hmm. On voyait le niveau des réserves de devises baisser, c'est-à-dire que elles achetaient du renminbi pour le soutenir, si vous voulez. Là, elles ont décidé d'enlever le plancher, tout simplement, de changer de direction.
Certains nous disent que c'est également pour faire plaisir au FMI, alors, pour que le yuan rentre dans cette grande corbeille des quatre monnaies, l'euro, le dollar, le yen et la livre.
Alors, il y a une chose extraordinaire, effectivement, c'est que tous les experts monétaires internationaux, enfin la plupart d'entre eux, et notamment ceux qui sont plus ou moins proches du FMI, rient en disant « c'est très bien, c'est de la flexibilité, c'est une évolution vers le marché », et tous les marchés pleurent. Ce qui est quand même curieux. Qui a raison, qui a tort?
Je vous pose la question.
L'habileté de la Chine, c'est d'avoir masqué une dévaluation dans une politique souhaitée par le FMI d'augmentation de la flexibilité de la monnaie. Simplement, pendant des années, on a souhaité que cette flexibilité se passe à la hausse, elle se passe à la baisse.
Elle pourrait d'ailleurs se passer à la hausse parce qu'on nous dit aussi, oui mais voilà, les choses ont un petit peu changé et maintenant oui. Le yuan fluctue suivant le fixing de la veille.
Ah oui, c'est ça. Alors là, il y a quand même quelque chose. C'est que jusqu'ici, on a toujours dit qu'il y avait 2% de marge de fluctuation, mais les mêmes 2% tous les jours. C'est que tous les jours, la balle était remise au départ, le compteur à zéro. Mmh. Tandis que la Banque de Chine vient d'annoncer que désormais, elle prendra le dernier cours comme base et pas le premier de la journée.
Qu'est-ce que ça
donc quand, ben, ça donne que si comme elle l'a dit ce matin par exemple, elle décide que le cours initial est de 1,6% plus bas, avec les 2% de fluctuation, ça pourrait faire 3,6 en une journée, ce qui est gigantesque. Ça peut donc se retourner. Et que veut vraiment la banque? Le premier jour, elle a un petit peu rusé avec les investisseurs en disant c'est une chose qu'on fait une seule fois. Et tout le monde a compris, on rebaissera pas le cours le lendemain. En fait, ce qu'ils avaient voulu dire...
Ils le font une seule fois par jour, en gros.
Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est la seule fois qu'on passera du matin au soir pour fixer le cours. Mais tous les jours, on pourra faire cet ajustement. Le continuerait-elle, soit si la spéculation amplifiait le mouvement, ce qui n'est pas impossible, soit si, au contraire, le mouvement à un moment donné s'inversait, c'est-à-dire s'il y avait un mouvement de marché vers la réévaluation. La plupart des observateurs pense que la banque chinoise, dans un système de régime de contrôle d'échange, ne peut pas abandonner le contrôle des cours complètement.
On imagine bien que si le yuan devait remonter, la banque centrale chinoise reprendrait des mesures en sens inverse.
Probablement.
Qui va pâtir de cette décision? Ce sont évidemment les entreprises exportatrices. On pense au luxe, on pense à l'automobile.
Les entreprises exportatrices vers la Chine, certainement pas les investisseurs en Chine, qui au contraire retrouvent des marges de productivité ou de compétitivité comme les exportateurs.
Mais quand
chinois.
On voit des PSA aujourd'hui qui sont extrêmement impliqués en Chine, pour eux...
Non, à mon avis, pour eux, c'est neutre ou même favorable, car leurs investissements et leurs coûts sont en Chine, exprimés en monnaie chinoise, si vous voulez. Par contre, pour des producteurs allemands qui exportent énormément de pièces knockdown, de pièces détachées, si vous voulez, ou qui exportent des voitures toutes assemblées vers la Chine, ou pour des fabricants de produits luxe, là, oui, c'est bien sûr un choc. C'est pas le premier... la campagne contre la corruption, le ralentissement de la consommation de luxe en Chine a déjà frappé au cours des derniers mois.
On dit également souvent que quand le yuan est dévalué, il y a un des effets de cette dévaluation est sur le pétrole, sur les matières premières d'ailleurs. Le pétrole qui est déjà aujourd'hui, j'allais dire historiquement bas, enfin c'est une image un peu bateau, mais qui est déjà extrêmement bas, autour de 40-43 dollars le baril, peut continuer de baisser.
On a vu ça à livre ouvert dans les derniers jours, puisque dans un premier temps, le pétrole, le cuivre, les matières premières ont baissé. Dans un deuxième temps, cet après-midi, quand on a vu que probablement la Banque centrale finalement rachetait un peu de renminbi, c'est remonté légèrement. Donc il y a une corrélation très très nette. Cela dit, est-ce qu'elle est défavorable pour les grands pays consommateurs? Est-ce qu'elle est défavorable pour nous? Est-ce qu'elle est défavorable même pour les consommateurs chinois? Je ne le crois pas. Par contre, c'est certainement une accentuation des problèmes pour la Russie, pour les économies émergentes.
L'autre question qui se pose, évidemment, c'est du côté des États-Unis. On sait que Janet Yellen a promis de relever les taux. On attend de savoir quand. Et est-ce que, justement, cette décision de la banque chinoise, alors on dit de la banque chinoise, c'est une décision politique, hein, bien évidemment, mais est-ce que cette décision politique des autorités chinoises est de nature, du coup, à faire revoir un peu le calendrier de Janet Yellen?
Pour l'instant, tout est positif. Aussi bien les réactions du Trésor américain que celles du FMI, c'est de dire bravo, de la flexibilité.
Et c'est un discours de façade.
Ça dépend jusqu'où ça va aller. Si c'est une flexibilité dans les deux sens et qui est vite démontrée, ce sera applaudi. Si en définitive c'est une politique de dévaluation compétitive, alors les États-Unis auront obtenu bien plus que ce qu'ils souhaitaient, si j'ose dire.
Oui, mais ça veut dire qu'il y a quand même un problème économique en Chine aujourd'hui, notamment de consommation intérieure. Oui. Est-ce que Janet Yellen peut prendre le risque de dire, voilà, finalement on va attendre un petit peu et d'exposer cette économie chinoise enrhumée aux yeux du monde?
Au stade actuel, ce qu'il va falloir observer aux États-Unis, c'est les États-Unis vont-ils maintenir ce que tout le monde attend, c'est-à-dire une hausse des taux d'intérêt. La hausse des taux d'intérêt fait remonter le dollar encore un peu plus et accentuerait l'écart et provoquerait, si vous voulez, un ralentissement dans d'autres économies. Est-ce qu'elle va y renoncer ou la tempérer en fonction de ce qui se passe en Chine? Ce sera une indication sur la façon dont les États-Unis jugent ce mouvement. Mais en tous les cas, ce qui est frappant, c'est qu'ils évitent la condamnation.
Selon vous, on peut aller jusqu'à une baisse, une dévaluation de combien? Certains experts parlent de 10, 12, voire 15% pour...
C'est aussi difficile de prévoir une dévaluation que de prévoir le prix du pétrole. Mais ça peut aller, à mon avis, plus loin que ce qui est allé aujourd'hui et hier. Il y a une chose qui me frappe, c'est que le premier jour, ce qu'on peut appeler les spéculateurs, enfin le marché, n'ont pas profité de toute la marge à la baisse qu'ils avaient. Le second jour, oui.
Les marchés vont s'habituer?
C'est bien possible. Et en particulier, les marchés internationaux ont bougé plus vite que le marché intérieur de la devise chinoise.
Merci beaucoup pour vos explications, François Godemant, donc directeur des programmes Asie et Chine au Conseil européen des relations internationales. Merci encore d'être venu ce soir sur le plateau du Grand Journal sur BFM Business. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les programmes se poursuivent évidemment avec votre rendez-vous de l'été tous les soirs, 19h, 20h, la librairie de l'écho présentée par Emmanuel Lechypre. Et puis pour ma part, j'aurai évidemment le plaisir de vous retrouver dès demain, 12h30, pour l'invité de BFM Business. Et puis à cette même place, à partir de 18h, pour le Grand Journal. Passez une excellente soirée et à demain.